on traite le fait d'être juif comme quelque chose d'essentialiste. Même si on n'a pas aucune culture juive, on reste juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avant Hitler, les Français d'origine juive se vu premièrement comme Français. Les cultures étaient Français. Bon, l'origine était juive. Ce qui était religieux, c'est défini comme juif. Ce qui n'était pas religieux, on dit, oui, nous sommes des Français, comme Dreyfus. Dreyfus était un Français d'origine juive. Les transferts qui étaient faits dans la politique identitaire, même en France, pas seulement en Israël, qu'être juif, ce n'est pas une culture, ce n'est pas vraiment un vécu spécial. Être juif, c'est quelque chose dans l'ADN peut-être, ou dans le visage, je ne sais pas. J'ai un sentiment que la judophobie d'autrefois, l'antisémitisme d'autrefois, qui a reculé comme fait public et politique dans le monde occidental, a laissé des traces, une vision des juifs comme une essence. Déterministe. Ce n'est pas une ethnie. J'essaie d'expliquer à beaucoup de Français d'origine juive qu'aujourd'hui, avec cette crise identitaire, avec la mondialisation, avec la recul des identités nationales républicaines, j'essaie de l'avertir. Il ne faut pas reculer vers une tribu imaginaire. Il ne faut pas reculer vers un communautarisme de sang.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En mars 2013, Shlomo Sand, professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, publiait un petit livre rageur intitulé « Comment j'ai cessé d'être juif ». Cet intellectuel, athée et de gauche, et un peu provocateur, avait tenté en vain de faire remplacer sur sa carte d'identité la mention « nationalité juive » par « nationalité israélienne », arguant du fait qu'une religion, surtout pour les non-croyants, ne pouvait être une nationalité. Un combat de principe qui n'a jamais eu vraiment une chance d'aboutir, et encore moins avec la montée en puissance des partis religieux et d'extrême droite. Comme tous ceux qui, en Israël, parlent encore de paix, de laïcité et des Palestiniens, Shlomo Sand est dénoncé comme « mauvais juif ». En 2014, Piotr Smolar, journaliste au Monde, est envoyé à Jérusalem comme correspondant permanent. Français, d'origine polonaise, il a grandi dans une famille athée, farouchement attachée à la démocratie, son père ayant été un opposant au régime communiste sous Gomulka et Guérec. Son grand-père, héros du ghetto de Minsk, et à l'inverse fervent communiste, est enterré en Israël. Pendant les 5 années de son séjour, Piotr Smolar va devoir réfléchir à ce que signifie pour lui cet héritage familial et sa judéité dans un pays qu'il doit raconter au jour le jour et où l'assignation identitaire et religieuse est de plus en plus exacerbée. Son livre passionnant « Mauvais juif » est paru aux éditions des Équateurs. Bonsoir Piotr Smolar.
Bonsoir.
En lisant votre livre, où vous parlez de votre père et de votre grand-père également, et de vous, je me suis demandé si, ayant eu un grand-père et un père très engagés, très militants, l'un dans le communisme, l'autre dans l'anticommunisme, est-ce que la position de journaliste n'a pas été, au fond, pour vous, une manière de ne pas prendre parti ?
Non, je pense que le travail de journaliste, c'est exactement l'inverse. Le travail de journaliste, ce n'est pas d'une fausse neutralité. Ce n'est pas une fantasmée objectivité. Le travail de journaliste, c'est un engagement quotidien, mais c'est un engagement avant tout éthique et non pas partisan. C'est un engagement à essayer au maximum de respecter la religion des faits. Et bien sûr, aussi en devant les interpréter, en devant les croiser, en connaissant les limites, en faisant respecter le contradictoire. Mais je crois vraiment que le journalisme est aussi une forme d'engagement. Mais encore une fois, distinct de la défense d'une idéologie ou d'une grille de lecture politique, parce que ça, pour moi, ça s'éloigne vraiment des normes professionnelles que nous devrions respecter.
C'était un peu ce que je voulais vous faire dire, c'est s'éloigner des grilles de lecture politique. Or, quand vous arrivez en Israël, c'est un moment de tension extrême. Quelques mois plus tard, Benjamin Netanyahou va diriger la coalition la plus à droite. C'est un pays qui se crispe, et alors que vous ne faites pas mention de votre judéité lorsque vous remplissez tous les papiers, que ce soit tant du côté israélien que du côté palestinien, pour aller travailler, parce que c'est plus simple. Au fond, ce qui se passe en Israël et les questions qu'on vous pose, que ce soit des amis ou des gens plus méfiants à votre encontre, vont vous obliger
à faire une sorte de retour et sur vous et sur votre histoire familiale. C'est donc au fond le regard des autres qui vous a fait écrire ce livre, mais après une réflexion personnelle que vous n'aviez pas menée vraiment jusque-là.
Alors ce que vous dites est tout à fait juste et en même temps est confronté à une limite. C'est-à-dire que l'envie d'écrire un livre, sans en avoir encore une idée très précise de ses contours, vient de loin. Elle vient du moment où j'avais découvert le livre de mon grand-père. Et à l'époque, je vivais en Russie et non pas en Israël. Et c'était la fin des années 90. Et j'avais pour la première fois lu en anglais le récit fait par mon grand-père de son passage dans le ghetto de Minsk entre 41 et 43, où il avait fondé un réseau de résistance grâce notamment à son passé dans la clandestinité communiste. Et il avait permis de sauver plusieurs milliers de juifs. Et j'avais été complètement, j'avais eu le souffle coupé par cette lecture.
C'était donc une histoire qui n'était pas transmise à l'intérieur de votre famille?
Non, pas vraiment. Pas vraiment transmise, alors que j'ai connu mon grand-père de son vivant, mais je l'ai connu essentiellement comme un vieillard souriant, mais un vieillard déjà physiquement diminué. Et j'étais trop petit, je pense, pour comprendre toutes ces subtilités-là. Et ensuite, il n'y a pas eu, c'est vrai, cette forme de transmission. Alors quand je suis arrivé en Israël, en fait, il y a eu un double, j'ai commis un double mensonge. Le premier était un mensonge, effectivement, sur les origines, sur mes origines juives. Et le deuxième mensonge, c'était de prétendre, lorsque je rencontrais des étudiants qui m'invitaient à l'université à expliquer mon travail de correspondance, et à prétendre qu'en réalité, que mon arrivée en Israël correspondait à une page complètement blanche. Ça ne peut pas être une page complètement blanche dans la mesure où Israël ne peut pas être pour moi, par mes origines, un pays tout à fait comme un autre, je sais pas, comme l'Uruguay ou le Japon. Il y a effectivement un lien très particulier qui forcément existe entre les Juifs des diasporas, j'insiste toujours sur le pluriel, et Israël. Mais en même temps, ce n'est pas pour moi et pour ma famille, ce n'est pas un lien organique. Israël n'est pas pour moi une maison mère, si vous voulez. Je suis français, ma maison c'est la France, et j'ai en plus des origines très riches, évidemment du côté polonais et aussi mes origines juives. Et donc il faut vivre avec tout ça. Pour reprendre la formule de Shlomo Sand que vous citiez au début, enfin qu'il donnait lui-même au début, moi je ne veux pas cesser d'être juif parce que je suis juif et je ne peux pas y mettre un terme. Mais ensuite, le livre parle de cela, je pense qu'il y a énormément de façons d'incarner ses identités et de le revendiquer. Et donc pour certains, le fait d'être juif, c'est vraiment l'astre central de leur identité. Tout tourne autour de ça et tout est défini par ça. Leur vision du monde, leurs relations, leur lecture. Je revendique un pluralisme. Je revendique la possibilité d'être juif d'origine polonaise, né en France, français passionnément, d'être percheron par mon attachement aux forêts de Normandie. Voilà, tout ça. Je pense que en tout cas, le livre cherche à ouvrir cette possibilité-là.
Mais c'est vrai qu'au départ de cette quête, il y a cette phrase très profonde de votre père qui vous dit un jour, si tu ne te sens pas juif, tu n'es pas juif. On va redonner la parole à Shlomo Sand, qui était venu justement nous en parler dans cette même émission en 2013. Où justement il dit que, enfin, pour lui, c'était provocateur de dire, évidemment, il ne voulait pas dire qu'il cessait d'être juif, mais qu'il voulait être israélien et cesser d'être traité comme quelqu'un qui aurait une croyance qu'il n'avait pas.
On était plusieurs intellectuels, écrivains israéliens qui ont demandé à la Cour suprême d'enlever le titre « nationalité juive ». Moi, j'ai une carte d'identité qui s'écrit « nationalité juive ». Et mettre nationalité israélienne. Le fait que je me définis juif ou pas juif, ce n'est pas l'affaire d'État. L'État d'Israël, c'est un fruit de certaines histoires, de certaines persécutions, de certaines douleurs et beaucoup de tragédies des juifs du passé. Mais le sionisme a créé là-bas une nation qui malheureusement continue et répète qu'il n'est pas une vraie nation moderne, républicaine, etc. Plutôt, c'est un État communautaire. Donc, le fait que j'apporte une nationalité juive, que je ne crois pas qu'il y a une nationalité juive, me fait des troubles personnels, parce que c'est vraiment mon affaire si je suis juif ou non. Ce n'est pas les affaires des autres. Il faut souligner ça. Et voilà, je vis un État qui ne veut pas. C'est-à-dire, le Cour suprême a décidé qu'il n'y a pas une nation israélienne. qu'il y a seulement une nation juive. C'est-à-dire, Woody Allen appartient à ma nation sans que lui, il veut venir vivre avec moi. Et il y a aussi certains intellectuels qui se réclament du judaïsme ici, qui ne veut pas vivre avec moi. De cette culture quotidienne qui n'est pas à lui, on est peut-être un passé commun. Mais on n'a pas ni présent et ni futur commun.
Piotr Smolar, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que ça recoupe certaines phrases de votre propre livre, quand il dit « c'est pas l'affaire des autres ». Et si, en Israël, c'est l'affaire des autres, puisque tout le monde va vous poser la question. Et quand il dit des gens comme Woody Allen, ou comme certains intellectuels français qui ont la double nationalité, qu'est-ce qu'ils connaissent à notre culture ? C'est aussi une question que vous posez. Au fond, la question, c'est comment peut-on être juif quand on n'est pas croyant et qu'on ne connaît pas grand-chose aux fêtes religieuses et donc à cette culture-là ? Vous vous la posez sans arrêt là-bas. Est-ce que vous avez, du coup, trouvé la réponse ?
Non, je ne crois pas que je me la pose sans arrêt. Je pense que je suis plutôt surpris et choqué par ce que regrette Shlomo Sand dans l'extrait que vous venez de citer. C'est l'ethnicisation de la vie publique en Israël. Et le fait que ce pays, qui est aussi composé de minorités, notamment 19% de la population de citoyens arabes, que ce pays a tendance, depuis déjà un certain nombre d'années, et cette tendance s'accélère dangereusement, à se replier effectivement sur une acception assez restreinte, défensive, de l'identité. Et c'est l'identité juive. La loi qui a été votée sur définissant Israël comme l'État-nation juive est particulièrement symptomatique à cet égard. Car dire que Israël c'est le pays des juifs, c'est une évidence depuis sa création. Oui. Mais c'est une évidence qui, du point de vue législatif, n'avait pas besoin d'être gravé dans le marbre. Parce que c'est une forme de violence symbolique qui est imposée à ceux qui ne le sont pas juifs
aux Arabes
au sein
israéliens.
De la population. Et donc c'est ça qui était tout à fait regrettable. Mais l'exemple de Woody Allen est intéressant, parce que constate-t-on parallèlement à cette ethnisation de la vie publique en Israël ? C'est qu'une distance de plus en plus grande se perd entre Israël et les diasporas, et en particulier les diasporas américaines, c'est-à-dire les juifs libéraux américains, qui sont effarés par cette évolution du gouvernement israélien, de la droite israélienne, qui ne se reconnaissent pas dans cette évolution politique parce que pour eux, les valeurs humanistes du judaïsme sont plus importantes que les choix politiques qui sont faits en Israël. Ils ont, pour certains, pour beaucoup d'entre eux, un lien très puissant, très fort avec Israël, avec Jérusalem, bien sûr, avec le mur des lamentations, avec la culture. Mais l'évolution politique de cet État israélien les effraie. Ils sont inquiets, ils ne s'y reconnaissent pas. Alors, les diasporas en Europe, c'est différent, notamment en France, où la France compte la plus grande communauté juive en Europe. On sent bien qu'ici, les juifs libéraux sont coincés, sont pris en étau entre, d'une part, la montée des différentes formes d'antisémitisme, et d'autre part, cette espèce de devoir de loyauté, cette injonction en loyauté qui leur est imposée, qui leur est adressée en provenance d'Israël. Vous êtes juif, donc vous êtes solidaire d'Israël. Vous devez l'être, puisque c'est votre maison mère. Et je pense que mon livre, au-delà de ses éventuelles qualités, j'aimerais bien qu'on en trouve, mais au-delà de ses éventuelles qualités, ce livre, je pense, a touché une corde sensible, et je le vois dans toutes les réactions qui me sont adressées, les messages, les gens qui viennent me voir lors de rencontres publiques. Ce livre a touché une corde sensible justement chez beaucoup de juifs suisses, belges, français, qui tout d'un coup viennent me voir et presque en murmurant une sorte de secret intime disent « Vous savez, moi aussi je suis un mauvais juif » ou « Je suis une mauvaise juive » dans le sens où ils n'en peuvent plus, ils sont étouffés par cette injonction identitaire qui leur est adressée.
Alors, Piotr Smolar, ce livre permet aussi, c'est un livre un peu en patchwork, en puzzle, qui vous permet aussi de raconter l'histoire de votre père, qui fut un militant contre la dictature communiste en Pologne, et un hommage formidable à votre grand-père, Hersch. Vous nous disiez que c'était à l'âge de 25 ans, lorsque vous étiez en Russie, que vous aviez pu lire son livre où il raconte son épopée. Et on va écouter sa voix. Elle a été recueillie par Claude Lanzmann. Et c'est le moment où il raconte ce qui s'est passé lorsqu'il a fait 400 km à pied entre Bialystok et Minsk en 1941.
In dem ersten Tag vom Krieg, wenn wir bin gegangen von Bialystok in der Richtung von Minsk.
Du bist aus Bialystok?
Ich bin Redaktor von einer jüdischen Tok-Zeitung in Bialystok.
Ja?
Ja.
Welcher Name?
Bialystoker Stern.
Bialystoker Stern.
Ja.
Aber du bist in Bialystok geboren?
Nein. Aber...
C'est le passage où votre grand-père raconte à Claude Lanzmann qu'il est né à Bialystok, qu'il dirigeait un journal en langue yiddish, le Star of Bialystok, et que en 41, il a fait 400 kilomètres à pied pour fuir l'avancée des nazis et qu'il s'est retrouvé à Minsk, 400 kilomètres à pied, lui demande Claude Lanzmann, il dit oui, et ensuite il y aura toute l'histoire du ghetto où il devient un héros extraordinaire, votre grand-père Piotr Molard, parce que il est à l'intérieur du ghetto et il dirige une organisation clandestine qui envoie des combattants dans les forêts et il va réussir à faire passer près de 10 000 combattants et il va diriger cette insurrection contre les nazis. Et vous dites que c'est à 25 ans, donc que cette histoire dont tout le monde doit être hyper fier dans votre famille, n'est pas raconté. Votre père ne vous l'a pas raconté. Vous l'avez découvert par son livre.
Oui, c'est vrai. Et comment vous dire? D'abord, ce parcours, est exceptionnel, mais j'essaye de ne pas l'idéaliser et d'être aussi froid que possible dans le récit sur toute cette période. Pourquoi ? Parce que héroïser mon grand-père, ça serait lui enlever la complexité et les contradictions et les nœuds dans son parcours. Parce qu'il y en a, évidemment. C'est-à-dire que quand on veut à la fois défendre la culture juive, la langue yiddish, ce qu'il a toujours voulu promouvoir en Pologne, dans l'après-guerre. Et en même temps, on est un communiste fervent.
Comme beaucoup d'autres.
Comme beaucoup d'autres. On est vraiment dans cette contradiction générationnelle, dans cette schizophrénie qui a frappé toute une génération. Et qui empêche de dormir et qui provoque parfois des conflits intimes absolument incroyables.
D'autant que Hersh Mollard était un antisioniste et qu'il ne voulait pas aller vivre en Israël et que ce sont les communistes, avec le retour de l'antisémitisme en Pologne, qui finalement l'ont obligé à émigrer. C'est aussi ça la contradiction.
Tout à fait. Il y a une évolution chez lui entre l'après-guerre, où même si dans un premier temps les autorités communistes polonaises ouvrent les portes du pays aux juifs pour qu'ils puissent partir et s'installer en Israël, très rapidement ces portes se referment. Et mon grand-père est un cadre communiste. Il est à la tête de l'institution représentative des juifs polonais. Et en même temps, il va prendre la tête aussi d'un journal en langue yiddish, le principal, mais tout ça est totalement sanctionné par le régime communiste. Tout ça est autorisé. Donc c'est un cadre communiste. Et en tant que cadre communiste, il n'est pas pour l'aventure sioniste. La création d'Israël, pour lui, n'est pas accueillie avec des cris de joie. Parce que ce n'est pas du tout la doctrine officielle à l'époque, puisque Israël, très rapidement, est considéré comme un membre du clan impérialiste par Moscou, et qu'on suit la ligne de Moscou. Et ce n'est qu'au fil du temps, lorsqu'il va s'apercevoir du développement d'un discours de la part des autorités communistes, qui est un discours de stigmatisation des Juifs de Pologne, qui sont présentés comme une forme de mauvais patriotes, de presque de traîtres de l'intérieur, de gens en qui on peut pas avoir totalement confiance. Tout ça, bien sûr, maquillé au nom de la lutte contre le cosmopolitisme, ce mot valise qui était aussi utilisé à Moscou et qui permettait, bien sûr, de nier tout antisémitisme officiel. Mais ça ne trompait personne. À cause de tout cela, à cause de ce phénomène-là, mon grand-père a dû faire le deuil, petit à petit, morceau par morceau, de son communisme fervent. C'est-à-dire qu'il a dû comprendre que cette voie-là se bouchait pour lui, notamment personnellement en Pologne, puisqu'il s'est retrouvé expulsé du Parti communiste, expulsé de la direction de son journal, et qu'il a choisi la voie de l'exil à ce moment-là. D'autant que ses deux fils, dont mon père, se sont retrouvés en prison.
My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Baby, we'll be old. Baby, little pretty baby. Little baby, pretty little baby, baby, baby. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Piotr Smolar, au fond, en vous lisant, je me disais que on était toujours le mauvais juif de quelqu'un, parce que en Israël même, il y a beaucoup de mauvais juifs qui se traitent de mauvais juifs entre eux. Il y a, vous décrivez un pays qui se fracture à cause de la montée des religieux, donc ils laissent de moins en moins de place à ceux qui ne veulent pas vivre au rythme des oukases, des ultra-orthodoxes, mais aussi, comme le président Reuven Rivlin l'avait dit en 2015, ces tribus d'Israël, puisque maintenant Israël est composé de juifs qui viennent du monde entier et qui ont recréé sur place leur propre rituel, leur propre langue, leur propre façon de vivre. Et au fond, vous décrivez une société où la violence interne, et pas seulement externe vis-à-vis des Palestiniens, mais la violence interne entre les différents clans de bons juifs ou de mauvais juifs se développe et s'accroît.
Violence, je ne sais pas. Tension, oui, très certainement. Quand on parle d'Israël de l'étranger, souvent j'ai l'impression qu'on parle d'un pays qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'Israël est aussi un fantasme, pour ceux qui l'aiment comme pour ceux qui le détestent et qui en contestent la légitimité. Et derrière ce fantasme, dans la réalité de ce petit pays de 9 millions d'habitants, il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est qu'il y a dans cette société à la fois des principes intégrateurs très très forts, notamment l'armée. Il y a l'éducation, les livres, il y a un patriotisme des fêtes, des cérémonies, des commémorations, mémoire des soldats tombés, de l'indépendance, qui sont toujours de grands moments dans l'année. Et puis les fêtes religieuses juives aussi. Donc il y a ces principes d'intégration très forts. Et de l'autre côté, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire cette sorte de fragmentation de la société en tribus, avec la population ultra-orthodoxe, avec le camp national religieux, avec les laïcs, essentiellement basés à Tel Aviv, avec la population russophone et la minorité arabe. Et souvent, il y a des formes de mépris entre ces groupes. Par exemple, les laïcs de Tel Aviv regardent de façon très dédaigneuse les habitants ultra-orthodoxes de Bnei Brak, qui est juste à côté de Tel Aviv. Ils ont l'impression que ces ultra-orthodoxes habitent en gros au Moyen-Âge encore, et qui n'ont pas grand-chose en commun avec eux. Mais de la même façon, les ultra-orthodoxes considèrent comme des impurs les autres juifs qui ne sont pas assez fidèles à la Torah, qui n'étudient pas les textes.
Vous racontez des manifestations d'ultra-orthodoxes devant des épiceries qui ne sont pas cachères.
Qui ne respectent pas, par exemple, Shabbat. Au moment de Pessah, qui vendent du pain alors qu'ils ne devraient pas le faire. Il y a parfois à l'intérieur de cette société des convictions qui se rejoignent, parfois qui se croisent et qui s'opposent, qui se heurtent. Et ces tensions-là, c'est ça le paradoxe. Donc d'un côté, un patriotisme vraiment très fort, très puissant en Israël, surtout face aux ennemis extérieurs. Il ressurgit immédiatement, il s'exprime. D'ailleurs, il y a une forme de cohésion politique assez impressionnante, d'unanimité politique, gauche, droite, centre confondu, dès qu'il y a un danger extérieur. Dans ces cas-là, tout le monde est aligné, on serre les rangs, et quand Israël est menacé. Et de l'autre côté, c'est vrai, il y a cette fragmentation. Et j'ai été, comme beaucoup d'autres, vraiment effaré par la stigmatisation, par exemple, de la minorité arabe pendant les deux campagnes électorales qui ont eu lieu en 2019. C'était incroyable parce qu'il y avait vraiment des relents racistes dans cette campagne menée par la droite israélienne, alors même qu'à l'intérieur de la société, en fait, la réalité est beaucoup plus apaisée et nuancée que ça. Il y a aussi des Arabes israéliens qui sont en train de monter dans des entreprises, prendre des postes de responsabilité. Mais voilà, la droite israélienne a décidé d'électriser aussi ses rapports entre les tribus.
Alors, sans remonter aux paroles prophétiques de Yeshaoua Leibovitz en 1967, qui dès la guerre des six jours et la victoire écrasante d'Israël avait prédit que ça allait être un cancer qui détruirait la société israélienne. On va écouter David Grossman, c'était en 2018 sur France Culture, qui dit que, au fond, cette occupation est comme un cancer qui ronge la société.
You cannot be an occupier for 50 years as we are.
Vous ne pouvez pas être occupant depuis 50 ans comme nous le sommes sans commencer à croire que vous êtes meilleur et que vous valez mieux que le peuple que vous occupez.
David Grossman, écrivain.
Nous sommes une société mue par l'anxiété, très facile à effrayer. Nous sommes facilement terrorisés par nos chefs d'État, surtout en ce moment où nous avons un Premier ministre génial dans la manière qu'il a d'additionner les menaces, les vraies menaces auxquelles Israël fait face, parce qu'il en a. Mais il sait comment les mélanger aux échos de nos traumas passés. Et en tant que peuple traumatisé, nous sommes sans défense face à une telle manipulation. Et c'est ce qui lui fait gagner les élections, encore et encore, quatre fois jusqu'à aujourd'hui. Si tout ce que vous dites est formulé en termes de peur, de piège, trahison, danger existentiel, à la fin, vous serez vaincu, parce qu'à la fin, si vous mettez tous vos investissements dans la défense militaire, et ne faites aucun effort pour la paix, qui est l'autre condition de votre sécurité, de votre futur. À un moment donné, je le dis, et ça me brise le cœur, nous serons vaincus. Nous serons vaincus par une puissance plus forte qu'Israël, plus intelligente ou plus courageuse, plus folle, je ne sais pas. Il y a tout juste un mois, j'ai eu une conversation avec un ministre de haut rang, de droite, qui m'a dit « Vous, les gauchistes, vous tous, vous êtes si naïfs et vous pensez avec votre cœur, vous croyez que ce conflit peut être résolu. Ce conflit, m'a-t-il dit, va durer plus d'une centaine d'années. »
Piotr Smolar, on entendait David Grossman toujours d'une intelligence et d'une sensibilité formidable, mais dans votre livre, vous également, vous parlez de Netanyahou comme quelqu'un qui ne croit pas du tout à la paix. Et cette croyance en une guerre éternelle, 100 ans ou plus, est au fond le sentiment qui, depuis l'assassinat de Rabin, s'est répandu absolument partout dans la société, majoritairement en tout cas dans la société israélienne. Ceux qui osent encore évoquer des discussions avec les Palestiniens ou la possibilité de la paix, ou un État, ou deux États, c'est fini. Ils ne sont plus audibles.
Ils ne sont plus audibles, tout à fait. Les paroles de David Grossman sont bouleversantes, mais hélas, Israël est de moins en moins son pays. C'est-à-dire que Israël a vraiment déménagé, pour reprendre une très belle expression de l'écrivain Diana Pinto. Israël a déménagé, ça veut dire que depuis le début des années 2000, s'est imposé un pessimisme général qui n'est pas de droite ou de gauche, qui vraiment recoupe l'essentiel de la société. Ce pessimisme consiste en quoi ? Il est à la fois sécuritaire et politique. Politique parce que les Israéliens, une majorité d'entre eux, ont le sentiment depuis la seconde intifada qu'il n'y a plus personne, et depuis l'échec des négociations de Camp David, qu'il n'y a personne avec qui négocier du côté palestinien. Que Mahmoud Abbas, comme Yasser Arafat avant lui, n'ont pas saisi la main qui leur était tendue, et que par conséquent, c'est une expression que j'emploie toujours pour parler de ce pessimisme, l'occupation à leurs yeux est un moindre mal. Un mal, mais un moindre mal. C'est-à-dire que, au fond, le prix d'une tentative de paix serait beaucoup trop élevé, beaucoup trop risqué, plutôt que de continuer en l'état et de poursuivre l'occupation. Parce que c'est vrai, quand on y réfléchit, Israël ne paye pas un coût très élevé pour l'occupation, sur le plan intérieur ou extérieur. Bien sûr, hélas, il y a des morts. Hélas, la violence palestinienne fait des victimes côté israélien. Hélas, il y a des roquettes qui sont tirées par les factions palestiniennes de Gaza. Mais au final, c'est un conflit de très basse intensité. C'est ça la vérité.
Pour les Israéliens.
Pour les Israéliens. Alors que les Palestiniens, eux, subissent au jour le jour les ravages de l'occupation. Ce que cela signifie en termes de limitation dans leur déplacement, de limitation d'épanouissement personnel, de déplacement physique, mais aussi de commerce, tout. Dans tous les secteurs de la vie et d'exploitation de leurs ressources aussi. Donc, par conséquent, lorsque ce ministre disait à David Grossman, vous savez, ça peut continuer encore 100 ans, on n'est pas obligé de le croire, mais on ne devrait pas rejeter ce propos. Parce que, hélas, aujourd'hui, les conditions pour une solution politique sont de moins en moins réunies et de plus en plus compromises par la poursuite de l'occupation. Et on voit d'ailleurs qu'on est en train un peu de sortir de cette ambiguïté de l'occupation. C'est-à-dire que la droite israélienne pousse de plus en plus fort pour passer au chapitre suivant, qui est celui de l'annexion pure et simple. Et Benjamin Netanyahou s'y est déjà engagé à deux reprises au cours de ses élections en 2019. Il a dit qu'il voulait aller vers une annexion partielle des territoires, notamment des grands blocs de colonies en Cisjordanie. Si ça se passe, un nouveau chapitre commencera et il sera très certainement catastrophique.
Mais ça signifie, Piotr Moller, que la seule solution qui reste, c'est un seul État, avec une population ayant moins de droits que la première.
C'est une déduction logique, mais qui néanmoins n'est pas vraiment discutée en Israël et n'est pas vraiment admise. Si vous demandez aux Israéliens, souhaitez-vous tout simplement absorber l'ensemble de la Cisjordanie, ils vont dire non, surtout pas. Que faire à ce moment-là avec toute la population palestinienne ? Alors, souhaitez-vous annexer seulement les colonies ? Ben oui, mais jusqu'à où ? Parce qu'il y a les grands blocs de colonies qui sont presque limitrophes avec Israël, sont limitrophes, mais que faire des colonies plus avancées à l'intérieur de la Cisjordanie ? Ce gruyère est insoluble. Donc, soit vous décidez d'une solution politique négociée avec des cartes précises des colonies et avec forcément un retrait partiel, notamment une suppression, une disparition de tout ce qu'on appelle les avant-postes, c'est-à-dire des colonies qui sont même illégales au regard du droit israélien, ou alors vous essayez de rester dans cette ambiguïté qui est une ambiguïté terrible. Parce que, vous savez, on parlait tout à l'heure de ce pessimisme généralisé dans la société. Et un jour, Benjamin Netanyahou, je cite cette phrase dans le livre, a prononcé cette phrase, « Israël vivra toujours l'épée à la main. » L'épée à la main. Quelle perspective pour ses enfants ? L'épée à la main.
Et vous, Piotr Smolar, comment êtes-vous rentré donc de cette expérience étrange qui est à la fois une expérience de journaliste en Israël et une expérience intime en tant que descendant de votre père, de votre grand-père, avec votre livre « Mauvais Juif ». Est-ce que ça vous a changé ?
Très certainement. Ça m'a changé parce que ça m'a placé aussi face à la propre complexité de mon identité. Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à se sculpter. Moi, j'ai passé davantage de temps à écouter les autres et à interroger les autres comme journaliste. Et c'est vrai que ça a été un exercice un petit peu vertigineux. et un petit peu, un petit peu vertigineux. Je crois que c'est vraiment la meilleure expression. Parce que je n'avais pas l'habitude, parce que c'est un dévoilement sur lequel on ne peut pas revenir par la suite. Et parce que je pense aussi que j'ai appris davantage en me soumettant aussi à cette interrogation et que ça a aiguisé aussi mon regard sur l'évolution d'Israël et l'érosion démocratique qui s'y produit.
Eh bien, merci infiniment, Piotr Smolar, d'être venu en parler avec nous ce soir. Je rappelle que votre livre « Mauvais Juif » est paru aux éditions des Équateurs et que c'est un livre passionnant à lire. Merci à vous.
Merci mille fois.
Et merci à vous, Kathleen Evin. On vous retrouve samedi prochain pour votre Humeur Vagabonde.